est blanche.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Qui est Tanguy Touffu, qui est l'entrepreneur derrière Descartes Underwriting? On part dans la seconde partie de ton épisode 40 nuances de Next. Est-ce que ça va toujours en... Ouais, on est la mi-temps, là on vient de passer la mi-temps.
Ça va toujours, après les questions personnelles sont peut-être les plus difficiles.
Ouais.
On attend le vrai match.
Avant qu'on passe au perso, et puis on remettra sûrement un peu de pro dedans, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit sur l'entreprise, et tu peux le dire maintenant ou te taire à jamais jusqu'à notre prochaine interview?
À chaque fois que j'ai l'occasion, je la saisis, c'est sur le recrutement. Donc on a évidemment des ambitions de recrutement extrêmement fortes. On choisit des gens du monde entier, donc on est quand même capable d'offrir un contexte de travail qui est formidable, vraiment global. Mais bon, il faut trouver ensuite les talents. Donc si vous êtes intéressé par des sujets mathématiques et climatiques, vous savez où nous trouver.
Donc globalement, profil ingénieur.
Profil ingénieur, ça peut être profil actuaire aussi dans l'assurance, ça s'y tient. Des DevOps et Software Engineers, ça c'est évidemment, tout le monde se les arrache aujourd'hui, c'est une guerre totale sur ce genre de profil. Mais on peut pas faire de tech si on n'a pas effectivement des Software Engineers, des DevOps, des Data Scientists, c'est essentiel.
C'est quoi un bon ingénieur? Parce qu'on parle des super boîtes dans lesquelles aller et puis on se pousse un peu du col pour être la plus sexy, pour recruter les plus beaux talents, mais c'est quoi le super dev, le super ingé?
Alors le super ingé, parce que c'est des profils qui sont différents, le super ingé, je pense que c'est quelqu'un qui aura un recul critique justement sur les modèles. Parce qu'on peut vite faire des erreurs, et donc quelqu'un qui a un recul critique, notamment avec une compréhension physique du monde, ça permet de remettre en question les modèles et d'aller plus loin. Donc c'est quelqu'un qui va réussir à créer finalement un modèle et pas à suivre celui qui existe déjà.
Alors qu'on imagine un esprit très terre à terre et pragmatique. Alors évidemment il en faut, mais l'idée c'est aussi de savoir sortir du cadre.
Bah, il faut aussi beaucoup de créativité finalement dans ce travail-là. On a beaucoup de docteurs en fait. Des docteurs qui ont travaillé sur des sujets aussi bien les nuages, les cumulonimbus, que des gens qui ont travaillé sur les sujets d'inondation. C'est assez large. Et ça, c'est des profils qui, évidemment, chez nous, sont super heureux.
On dit souvent qu'on laisse les plus grands talents, notamment dans la recherche, partir à l'étranger. C'est une manière de les garder en France.
Alors, c'est une manière de les garder en France. Et c'est vrai qu'on a, récupéré des gens qui travaillaient chez Goldman Sachs à Londres. On les a récupérés parce que clairement, il y a une dimension sociale et climatique qui est très forte. On a des gens qui étudiaient à l'étranger, qui pensaient pas revenir, qu'on avait réussi à faire revenir, notamment des gens du Canada. Oui, je pense que on a la chance d'offrir un terreau qui est très fertile pour les esprits curieux et en même temps rigoureux et exigeant.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
On parle de toi, Tanguy. Si tu le veux.
Que veux-tu
dire.
Savoir? Il y a tellement de choses.
À peu près tout. On l'a dit, hein, t'as avant de monter. L'entreprise Descartes Underwriting, tu as fait HEC, enfin t'as fait des choses entre, et encore un peu avant ça, t'étais un jeune gamin qui avait peut-être des rêves, des envies. T'étais quel type de gamin? Qu'est-ce qui finalement, à chaque étape de ta vie, t'a amené là où tu es aujourd'hui?
Alors c'est compliqué de se remémorer ce qu'on était vraiment à l'époque. Hein. Je suis né en fait à Belfort, donc dans l'est de la France. Qui est une zone qui a été assez bouleversée par des crises industrielles. Donc c'est pas le Nord, mais c'est une autre déclinaison du Nord, dans le sens où il y a eu évidemment des acteurs comme Peugeot, des acteurs comme Alstom, des acteurs comme Bull, qui ont connu des périodes glorieuses et des périodes évidemment de chute.
Forte récession, ouais.
Exactement. Donc voilà, Belfort, c'était une ville qui a connu beaucoup de guerres sociales et voilà des contextes industriels difficiles.
Et ça, je sais pas, parce que t'es pas bien vieux non plus. T'as quoi,
j'ai passé la quarantaine.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est des souvenirs de gamin que tu as. Cette
ambiance-là, forcément, parce que j'avais toujours dans ma classe des gens qui avaient des personnes qui bossaient dans ces entreprises-là et qui potentiellement perdaient leur travail. Donc il y a toujours eu dans mon école évidemment le le pouls à la récré qui était dicté par la situation économique des grandes entreprises autour. Et évidemment, il y a eu des fermetures qui se sont succédées, donc c'est quelque chose sans doute qui m'a marqué un peu dans mon enfance.
Et il y a quelque chose entre les gamins des enfants qui bossent dans ces usines et les autres, où finalement on est tous copains et juste on partage.
On est tous copains et on est tous solidaires, parce que si l'usine va mal à côté, ben on sait que derrière c'est tout le monde qui va mal, c'est tout l'écosystème. Donc moi, mon père était vétérinaire, c'est sûr que les gens qui avaient des animaux mais qui n'avaient plus de revenus, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas les soigner. Donc clairement, il y avait une chaîne économique qui dépendait aussi des grandes entreprises de la région.
Est-ce que, alors là pour le coup, je pense après coup, mais ce regard aussi sur la notion de précarité, de chômage, ça change du coup l'entrepreneur que tu es ou que tu penses être aujourd'hui?
Je pense que ça façonne une vision de société qui est historique. C'est-à-dire qu'il y a des cycles. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va mal. Il y a des moments de lucidité à garder pendant les euphories. Et inversement, dans les moments de coups de blues...
Avoir un certain sang-froid ou stoïcisme.
Il y a un rebond qui va arriver. Donc je pense que c'est aussi des régions qui ont effectivement réussi à faire face en innovant plus ou moins facilement, avec plus ou moins d'aide de l'État ou d'entrepreneurs. Donc c'est, je pense que ça donne une perspective
très
de combativité
cyclique.
Et de combativité. En disant, bon, ok, aujourd'hui ça va bien, mais attends, prépare-toi à demain, parce que demain ça va dérailler.
C'est cette notion d'après la pluie vient le beau temps dans tous les cas.
Et inversement.
Ouais.
Après le beau temps, sache qu'il y aura un orage, donc il faut être prêt.
Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est très valable aussi dans ton regard sur ta vie même perso?
C'est certain que, oui, on est dans un monde qui est extrêmement anxiogène. On a souvent un regard sur les années 80 ou 70 qui ont connu des chocs. Hein. Le sida a été un choc monstrueux dans les années 80.
Ou est-ce qu'on fantasme pas aussi le fait que parfois c'était mieux avant?
On fantasme, c'est certain, mais il n'y avait pas une sorte d'épée de Damoclès avec le climat qui est quelque chose où on se dit quand même, bon, comment on va s'en sortir? Il y avait, je me rappelle très bien, de la couche d'ozone, qui était un sujet pour les gamins comme moi qui était extrêmement clé, qu'on a en partie résorbé. Là, on est sur un sujet qui est quand même beaucoup plus complexe, où on se rend compte que c'est pas juste en arrêtant d'utiliser certains aérosols qu'on va y arriver, mais carrément en changeant complètement la société. Donc c'est vrai que c'est quand même anxiogène. On est dans un climat, on va dire, de populisme qui est montant dans beaucoup de démocratie. Donc voilà, on est dans un monde anxiogène, mais ce recul historique et puis voilà, avoir été dans l'environnement où on a enchaîné des crises industrielles, ça permet encore une fois de relativiser.
Est-ce que la science... Déjà, est-ce que tu te considères comme un homme de science ou proche des sciences?
Non, malheureusement, j'aimerais bien être un homme de science. Hein. J'ai pas le cerveau pour, donc là, faut rester très humble. En revanche, j'ai une admiration pour les scientifiques. Et pour moi, c'est un peu les branches auxquelles on peut s'accrocher. Donc c'est important d'avoir toujours, quand on est perdu, de trouver des boussoles. Et je pense qu'évidemment, on a appelé la boîte Descartes parce que Descartes est une boussole scientifique où quand on comprend pas quelque chose, on va utiliser un processus hypothético-déductif qui va faire qu'on se sent bien à la fin du processus.
Donc la science est la réponse aux risques climatiques, aux risques... Tu parlais de populisme, populiste.
C'est sûr que, on doit muscler encore l'éducation scientifique de nos enfants pour s'assurer qu'ils tombent pas dans des pièges de facilité. Ça me paraît essentiel.
Du coup, je reviens au gamin que t'étais, on l'a tous été. Est-ce qu'il y a des sortes de mantras familiaux qui te sont restés, qui ont guidé ta vie et qui ont participé, encore une fois, à devenir l'homme puis l'entrepreneur que tu es aujourd'hui?
Alors, c'est toujours compliqué d'avoir des repères familiaux. Je pense que celui que j'ai eu sans le connaître, c'était un de mes grands-pères qui est mort, en fait, dans un accident d'avion pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était pilote en fait de chasse et qui effectivement était parti en Afrique avec l'armée en fait pour il est mort au Maroc, mais ma mère était née en fait au Sénégal. Donc c'est quelqu'un qui a eu le courage en fait de quitter le pays, de quitter son pays avec son épouse enceinte pour justement défendre en fait sa patrie. Donc c'est un repère que j'ai pas connu, que forcément on idéalise, mais c'est quelqu'un qui, dans un monde où on a été parfois faible, parfois lâche, c'est une bouée dans mon environnement. Je me dis bon, il y a quand même un mec, il est mort dans sa carlingue, il avait il était pilote à ce moment-là pour entraîner des nouveaux pilotes dans des avions qui étaient des avions souvent en mauvais état.
Ouais.
Les Français étaient évidemment, par rapport aux Américains, c'était des bases américaines et anglaises. Bon, les avions que les Français pouvaient récupérer, c'était vraiment les poubelles que les Américains laissaient en fait. Voilà, donc il fallait que jour et nuit, dans son carnet de vol, on voyait qu'à la fin, il était quasiment 20 heures sur 24, y compris la nuit, en formation des futurs pilotes qui pourraient reprendre la conquête de l'Europe. Donc oui, je l'ai pas connu, mais c'est quelqu'un qui avait clairement un certain calibre.
On se rend pas toujours compte des traces qu'on laisse derrière soi sur les générations d'après, même quand on les côtoie, et alors a fortiori quand on les a pas connus. Je sais pas si t'as des enfants, mais je crois que t'as des neveux et nièces.
J'ai deux filles, effectivement, 8 et 10 ans.
Et la question de ce que tu souhaites leur laisser, et encore une fois, je parle pas d'une maison ou d'une guitare personnelle, par exemple, mais plutôt dans la vision de ce que doit être la vie et de la manière de la vivre.
Alors, il y a énormément de choses que j'aimerais leur léguer. Je pense que un des sujets qui est pas forcément aujourd'hui bien traité dans la French Tech, c'est le poids des femmes en fait dans les décideurs. Et ayant deux filles, évidemment, j'essaie de comprendre pourquoi dans le Next 40 aujourd'hui, il n'y a pas une femme. Bon, et donc ça, c'est quelque chose, j'aimerais au moins que...
Sur la récente promo.
Sur la récente promotion.
Bon, déjà, avant, il n'y en avait pas beaucoup, c'est pour ça qu'on a fait 40 nuances de Sista, mais là, effectivement, il n'y en a pas une.
Donc ça, évidemment, j'aimerais que mes filles craquent ça, il faut que je réfléchisse à comment leur faire craquer ce sujet-là.
C'est ma question d'après.
Ah, bah tu vois, j'ai anticipé, je te connais maintenant, après tout ce temps-là, j'anticipe.
T'as des pistes ?
Alors les pistes, j'ai en fait à mon board, j'ai Gaël Olivier qui est un des directeurs généraux délégués de Société Générale, qui est évidemment une figure en fait des femmes dirigeantes, qui était mon ancienne chef en fait par le passé, que j'utilise aussi comme coach pour des femmes dans mon réseau, parce que avoir des repères masculins, ça fonctionne pas, je pense. Et après, ça suffit pas, ça suffit pas. En tout cas, on voit pas que ça, enfin, c'est.
Sinon, ça irait pas de sujet.
On va déjà régler le problème. Donc non, je pense que voilà. Et puis après.
Donc le premier sujet, c'est les modèles.
Je pense que c'est plus facile quand on a des modèles. Là, ce que j'avais acheté par exemple à mes filles, c'est un calendrier qui reprenait chaque jour une femme scientifique. Et donc chaque jour, quand on se levait, mes filles tournent la page et apprennent une scientifique japonaise, péruvienne, etc. Mais on voit bien que dans l'histoire, les femmes ont été oubliées. Et donc réussir à faire ressortir des figures féminines, ça permettra à mon avis de rééquilibrer. Bon, ça c'est encore une fois c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais je pense que la place des femmes a été effacée.
Bien sûr.
Et voilà, je pense que c'est quand tu m'as parlé de figure familiale, tu vois, j'ai utilisé une figure masculine. J'ai pas utilisé une figure féminine et voilà, je.
Mais c'est pas ta faute, mais peut-être qu'on n'a pas compté suffisamment les exploits ou le rôle des ancêtres féminines de nos familles parfois.
Bah clairement, je pense que je commence effectivement. J'ai passé la quarantaine, donc je me considère vieux. Et je pense que de la façon dont on m'a appris en fait l'histoire ou les sciences, clairement la place des femmes n'était pas celle qu'elle méritait.
Il y a évidemment la question des modèles et puis peut-être le sujet de pouvoir être presque avec raison gardée, mais son propre modèle et donc celui de la confiance en soi.
Alors c'est un sujet qui est super difficile à traiter parce que on tombe dans les clichés, on tombe on va dire dans des idées préconçues, donc je veux pas trop m'aventurer là-dedans, mais on voit quand même que il y a le stéréotype du mal alpha testostéroné qui connaît pas le sujet, qui va dire c'est pas grave, je réponds, et puis potentiellement d'autres.
Est-ce
profils.
Que c'est le même qui prenait de la viande?
C'est
je fois, fais écho à une discussion qu'on a eu tout à l'heure.
Tu fais bien de faire écho à ça, et puis encore une fois, je suis le mâle blanc plus de 40 ans qui a fait HEC, donc qui évidemment continue à manger de la viande. J'essaie d'en manger moins, mais je continue à manger. Donc
mais c'est pas ta faute si tu es né blanc homme et que tu as fait HEC.
C'est une responsabilité. C'est une responsabilité, c'est-à-dire que j'ai plus de chances d'avoir des décisions à ma main Donc c'est important que j'utilise ça de manière intelligente.
Ouais.
C'est clair. Et je pense que par rapport à la solution, je pense que quelque chose que je vais bien pousser, c'est le fait que au niveau des fonds, je pense que si les fonds doivent donner 50% de leur argent à des femmes fondatrices, je pense que ce sera vraiment une solution à envisager. Parce que si c'est plus facile pour certaines fondatrices de lever de l'argent, et j'ai recommandé effectivement Mariemba, qui est une entrepreneuse sénégalaise et française qui travaille sur la micro-assurance en Afrique, qui a travaillé au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis. Bon, si elle a des financements plus faciles que ce qu'elle pouvait avoir aujourd'hui, ben clairement ça a changé la donne. Et elle, c'est quelqu'un qui voilà fait des choses que peu de gens pourraient faire.
Il y a un sujet sur l'accès des femmes au financement.
Exactement, parce que la plupart des fonds c'est quand même des hommes
C'est pas pour rien, là, ça commence à dater, mais heureusement elles sont toujours là, mais le collectif Sista qui s'est créé aussi pour ça, pour des fois même des dissonances dans les questions qui pouvaient être posées aux entrepreneurs féminines.
Ah, c'est certain, oui. Ça, je pense que c'est évidemment une excellente chose et voilà, va falloir utiliser pas mal de méthodes différentes pour améliorer la situation.
S'inspirer. Respirer.
On en a parlé tout à l'heure, Tanguy, tu n'as pas eu le temps parce que tu travailles trop, tu n'as pas eu le temps de regarder Don't Look Up, qui est quand même un sujet très très proche de tous les sujets hein, qui vous occupe aujourd'hui avec l'entreprise. J'imagine quand même que tu trouves au moins un petit peu de temps pour toi, en tout cas j'espère. Est-ce que c'est le cas ?
En fait, pas tant que ça. C'est vrai que le temps est quand même beaucoup donné aux autres, à partir du moment où on a des enfants déjà... Et quand on a une boîte avec des cofondateurs, il faut passer beaucoup de temps avec les autres. Et donc, c'est ma famille qui va utiliser ce qui reste. Et j'essaie de leur garder une part qui est pas minuscule, pas maigrichonne de mon temps.
C'est important, ça aussi?
Bah, c'est important. Encore une fois, tu parlais de perspective historique. La génération d'après, il faut leur laisser, on va dire, à la fois des manettes et un environnement qui est plus propice que celui qu'on a reçu. Et c'est pas encore gagné, pour notre génération en tout cas. Et évidemment, leur donner toutes les cartes en main pour que à leur tour, sur la génération d'après, on ait une performance qui soit meilleure. Donc oui, c'est essentiel. Enfin, on peut pas ne pas s'occuper de sa génération future. Au sens large, ça peut être mes enfants, mais évidemment, ceux des autres aussi.
C'est un changement générationnel, ça, ce rapport à la paternité.
Alors ça, oui, tu abordes une question qui est évidemment aussi assez sensible chez moi, où moi je viens d'un milieu où évidemment mon père était très dominant dans le couple pour dire les choses élégamment. Et aujourd'hui, j'essaie de faire ma part des choses. Il y a des choses où typiquement, c'est moi qui vais faire le petit déjeuner, qui va faire le dîner. Ça, c'est, je pense, que c'est déjà un apport. Il y a des sujets où je suis moins fort. Est-ce que je suis patient pour les dicter systématiquement? Peut-être pas comme je l'aimerais l'être, mais je pense que j'ai trouvé un équilibre qui fait que je suis capable de me regarder dans une glace en disant bon bah je fais mon boulot, je suis sur mon 50%, ce qui est un peu on va dire utopique. Et puis mais je pense que oui, par rapport à la génération d'avant, en tout cas je cartonne, j'explose tout. Après, par rapport à ce que je devrais faire, peut-être pas.
50% de l'éducation, 50% des tâches ménagères, c'est ce que tu voulais dire par
50%. Ouais, c'est 50%, ouais, c'est tout à fait. Évidemment, ça, c'est un sujet majeur. Mais je pense que, enfin, j'ai des cas dans l'équipe où je me rends compte que certaines femmes, malheureusement, sont tirées vers le bas par leur couple, où l'homme joue pas le jeu de leur laisser suffisamment de temps pour qu'elles puissent, effectuer leurs tâches professionnelles.
Avec toute la charge mentale qu'il y a derrière. Exactement. Sur la gestion quotidienne.
Donc c'est fondamental.
Il y a une charge mentale pour le dirigeant d'entreprise.
Il y a une charge mentale qui est phénoménale, évidemment, parce que on gère les problèmes que les autres n'arrivent pas à gérer. Donc on a la quintessence des emmerdes de la boîte. Et évidemment, nous on a la saveur américaine, la saveur singapourienne, la saveur australienne. On est sur, encore une fois, des catastrophes qui arrivent tout le temps. Donc on a des sinistres tout le temps à gérer. Donc, est-ce qu'on a des artères qui sont en pleine santé? Sans doute pas. Mais c'est partie du jeu. C'est à partir du moment où on choisit la liberté et puis le fait de créer quelque chose d'ambitieux, ça implique que derrière, évidemment, on a des cheveux gris, on n'a plus de cheveux et puis... Évidemment, on n'a pas un physique athlétique
faut,
de rêve.
Faut choisir les cheveux gris ou plus de cheveux.
Ouais, ou les deux à la fois. Enfin, voilà, super.
Des cheveux gris qui tombent, merde. Je remets volontairement le jingle.
S'inspirer. Respirer.
Et donc, avec deux notions qui sont très clairement établies dans ce jingle, s'inspirer et respirer. Donc, comment on fait la décharge mentale? Comment on arrive à décharger un peu quand même?
C'est intéressant d'utiliser effectivement Gainsbourg avec des poumons bien noirs pour pas être de respiration. La respiration, je pense que qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui doivent faire du sport, même s'ils sont pas forcément... des fans à la base, juste pour se vider complètement physiquement.
On avait Thomas de Miro qui lui a même un ring dans la boîte.
Nous on a une salle de sport avec effectivement des sacs de frappe. Et je pense que c'est pour des gens qui codent du soir au matin, avoir une phase de décompression, c'est vital. Et c'est vrai que on développe quand même pas mal d'agressivité in fine avec toute la caféine qu'on boit et puis avec
caféine, écran,
le stress, ouais. Etc. Donc c'est important. Je vais pas vendre des cours de yoga à ce podcast-là, mais faut trouver un équilibre physique et le sport est clairement une bonne chose.
Donc ta décharge mentale à toi, c'est du sac de frappe au bureau.
C'est pas forcément du sac de frappe, mais en tout cas, ça va être des marches de 20 km avec mes filles le week-end, qui fait que évidemment j'ai d'autres sujets à traiter. Et on fait travailler la cage thoracique et les muscles.
Tu parles de ce moment. Alors là, je vais prendre l'exemple de la marche le week-end avec tes filles. T'arrives à faire le off dans la tête de tous les sujets de la boîte? Ou ça reste lancinant parfois quand même.
La chance qu'on a, c'est qu'on a vraiment une entreprise qui est mondiale avec donc des horaires le matin, enfin le soir, je me couche avec les nouvelles d'Australie et puis évidemment le matin je me réveille avec ce qui s'est passé aux États-Unis la veille. Donc il n'y a pas vraiment de moment où on peut décompresser. Au mois d'août en fait, c'est une période qui est calme en France. Mais par exemple, en Chine, ça bosse super dur au mois d'août.
Donc en fait, parce que les sinistres.
Les sinistres et puis aussi les clients. Enfin, il y a une partie de la planète. Hong Kong. Là, en France, on est rythmé par les vacances scolaires. À Hong Kong, clairement, enfin, c'est pas la même vision du monde. Donc, il n'y a pas tellement de temps mort lié à notre activité qui est mondiale. Et après, oui, ça se calme un peu plus le dimanche. On fait attention à. Moi, j'envoie plein de messages le dimanche, mais qui ne partent que lundi matin à 8h. Donc il y a une avalanche de choses qui tombent à 8h, mais le dimanche et le samedi, j'essaie de laisser les gens à peu près tranquilles.
C'est bien, mais toi?
Moi non, ça j'y arriverai pas. Encore une fois, il y a des choses qui sont...
T'y arrives pas ou t'y arriveras? T'as dit j'y arriverai pas.
J'y arriverai pas dans le sens où voilà, il y a quand même une pression constante, et après je suis aussi, avec les cofondateurs, celui qui doit gérer les problèmes que les autres peuvent pas gérer quand ça chauffe. Donc c'est sûr que le week-end, on n'est pas censé être reposé, tranquille. On va gérer les trucs qui n'ont pas fonctionné. Donc peut-être que dans 5-10 ans, on y arrivera, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On est quand même responsable. Il faut qu'on laisse les autres respirer. Et donc ça veut dire qu'on va gérer les choses le week-end pour laisser les autres respirer.
Un mot sur l'inspiration.
Alors l'inspiration, elle est multiple, elle est variée. Ça peut être aussi bien du musical... que
on veut
la
des
peinture.
Noms. On veut des noms.
Ah, des gens qui m'ont inspiré. C'est une bonne question.
Je sais pas, le dernier album, ou alors maintenant on parle plus d'album trop, mais la dernière musique sur ton Spotify ou ton Deezer.
Je suis revenu. En fait, je suis assez communique à ce niveau-là. J'ai à la fois des choses des années 60, des 70, des années 80, des choses très récentes. J'ai une sorte de ragoût en fait musical qui fait que y a pas grand chose qui s'en décroche, mais j'ai un grand frère qui il y a plus de 11 ans de différence avec moi, qui m'a plongé dans la new wave des années 80 quand j'étais tout petit, qui fait que je suis très sensible à cette nouvelle vague musicale. Donc ouais, que ce soit les Cure ou Eurythmics, ce genre d'acteurs. Après, je pense que du Giorgio Moroder, par exemple...
Comment tu dis ?
Giorgio Moroder.
Moroder.
Qui est l'une figure dans l'électronique où tu prends Kraftwerk. Pareil, c'est des gens qui ont... Bah, notamment,
c'est lui qui a fait Chase, Giorgio Moroder.
Chase, et qui a été repris aussi par Daft Punk.
Ouais.
C'est un des pères de la musique électronique, même titre que Kraftwerk, qui ont carrément créé, en fait, un nouveau courant, une nouvelle façon de produire la musique.
On écoute.
On the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future. But I didn't realize how much the impact would be.
Pas une interview là.
Tu vas voir que ça va
dire. Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Effectivement, c'est du haut niveau. C'est vraiment du haut niveau.
Et donc ça, il a fait ça avec les Daft Punk. Enfin, c'est les Daft Punk qui ont repris une interview.
Parce que c'était une des sources d'inspiration des Daft Punk. Et c'est quelqu'un qui a finalement remis en question aussi des concepts de mélodie. Comme il l'a dit, en fait, c'est pas quelqu'un qui a été éduqué à la musique classique, sur des canons, on va dire, habituels, et donc qui a été capable de bouleverser la façon dont on pouvait définir les accords, etc., dans la musique. Donc finalement, en étant en rupture, en cassant des règles, il a contribué à créer avec d'autres une musique électronique qui, évidemment, résonne beaucoup.
C'est un peu ce que tu disais de l'ingénieur parfait tout à l'heure, c'est celui qui va aussi réinventer certains codes.
Alors, en cassant, il est reparti effectivement, ouais. Comme il le disait, avec au départ une guitare, puis ensuite un synthétiseur, mais assez primitif, il est reparti sur vraiment une nouvelle approche de la musique.
On a un podcast qui s'appelle Cash Out, qui est dédié aux entrepreneurs qui ont fait un exit, qui se fait en musique. Et c'est la première fois qu'on met de la musique dans 40 nuances de Next, mais je pense que je vais...
T'es prêt, là, tu vas jouer tout de suite.
Ouais, j'ai essayé de taper discrètement pour pas que ça résonne partout. Mais super découverte, et puis bah, du coup, t'avais l'air passionné.
De
ce mec, et puis de cette idée de réinvention, de casser des codes.
On voit bien que aussi dans notre métier sur la tech, on est de plus en plus, on va dire, mis en question par les machines, les algorithmes sur notre capacité analytique. Donc la créativité va jouer un rôle primordial dans la façon dont l'être humain va évoluer. Et donc il y a des gens qui sont capables de, enfin, quand on crée un morceau de musique, on part d'une feuille blanche, et comme on crée un roman, ça demande vraiment un exercice de création qui est extrêmement prenant et que on n'a pas forcément beaucoup fait dans notre parcours éducatif. Mais je pense que c'est un peu l'avenir de l'homme, de se projeter cette créativité-là. Parce qu'on n'arrivera pas à battre les machines, on le voit aussi bien aux échecs que sur le jeu de Go, donc il faut qu'on s'en positionne.
Ou même quand il s'agit d'aller vérifier un sinistre.
Exactement. À partir du moment où on est bien meilleur avec du satellite et de l'algorithme qu'avec l'être humain, évidemment, il faut réussir à coder, mais dans ce cas-là, c'est plutôt la créativité qui va nous différencier de la machine. Si on se pose une question existentielle sur l'humanité. Hein.
Est-ce qu'il n'y a pas une IA à un moment qui acceptera de gérer toutes les merdes que personne ne veut gérer pour libérer l'entrepreneur de sa charge mentale?
Bah, c'est aussi un peu ça, c'est que dans la tech, on veut aussi libérer l'homme de beaucoup de tâches ingrates. C'est pas forcément évident dans certains secteurs, mais
et je pose quand même la question presque philosophique, mais est-ce qu'on le libère vraiment à le libérer de tout?
Il y a clairement des inventions, on va dire tech, qui créent en fait, qui mettent des chaînes aux pieds, hein, ça c'est certain. Enfin, on voit que les réseaux sociaux sont à la fois une merveille dans la façon dont les gens peuvent interagir entre eux, et en même temps on voit bien qu'il y a des gens qui sont finalement à un niveau d'addiction qui est pas tenable.
On parlait de Chine tout à l'heure pendant l'entracte, oui. entre nos deux parties d'épisode. et de l'impact que ça peut avoir sur cette jeune génération qui veut parfois consommer des choses alors de pure fast fashion, des produits pas très quali qui viennent de l'autre bout de la planète. Et parce que les influenceurs derrière qui les incitent aussi, et parce qu'on a envie de faire comme ceux qu'on admire.
C'est le cas, mais tu prends l'exemple de la Chine où justement la Chine a pris des mesures drastiques pour pas que leurs enfants, leurs adolescents puissent finalement passer beaucoup de temps sur ce genre de...
Je parlais de Chine, pardon, pour la marque, et puis là toi tu me parles de la Chine.
Sur leur capacité à dire finalement non. Après, évidemment, on est sur un État qui, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui est aussi contrôlé par WeChat, par des grands empires qui sont évidemment aussi très proches de l'État. Mais en tout cas, ils ont pris des décisions assez
radicales
sur évidemment le temps que les enfants peuvent passer devant les écrans, en responsabilisant les parents.
Tout comme les grands patrons de la tech qui mettent leurs enfants dans des écoles sans écran.
Tout à fait, ouais. Ouais, ça montre aussi qu'il y a une discipline à avoir et donc là voilà, je pense qu'il y a
un brin de cynisme aussi.
Et aussi du cynisme, oui, c'est sûr. Si je produis quelque chose et je le donnerai pas à mes enfants, ça c'est plus que du cynisme là. C'est
comment on fait, on revient sur ton rôle de parent, mais pour aborder cette question sans être le vieux con qui dit c'est pas bien.
Bah évidemment faut montrer l'exemple. Après est-ce qu'on y arrive?
Et on manque pas tant que ça. Ouais.
Non, vu le temps que je passe devant les écrans, est-ce que je suis une bonne figure paternelle? Non, clairement pas.
Après, au moins sur ça peut-être.
Au moins sur ça.
On va pas se fouetter non plus.
Alors après faut être aussi réaliste avec ses limites. Non, je pense qu'il y a un travail de créer en fait un. Enfin d'expliquer. Faut réussir à expliquer. Faut pas les infantiliser dans le sens où il faut leur expliquer un peu la façon de penser, la façon dont on peut avoir un recul critique sur son environnement. Remettre en question. Ça, je pense que c'est primordial.
Wow. Normalement, tu as été prévenu qu'il y aurait quelques-unes des rubriques à préparer. Et alors, je ne sais pas si on t'a prévenu pour celle-ci, mais c'est la rubrique La Claque. L'idée, c'est de revenir sur un moment où tu as pris une claque, perso, intellectuelle, entrepreneuriale, qui a été riche d'enseignements.
Alors, je ne l'ai pas préparé, celle-là. Je pense que des claques, on a tout le temps. Faut trouver celle qui vraiment a fait que les dents du fond sont parties avec le coup. Allez, une claque intéressante, c'est la rencontre avec mes cofondateurs, sachant que c'était pas encore des cofondateurs à l'époque. Mais finalement, c'est des gens où je me suis dit tiens, ces gens-là, ils sont quand même ils scotchent. Ils voient les choses différemment, ils voient les choses que je vois pas. Ils sont vachement clairvoyants, ils sont plus intelligents que moi. Et finalement, ma lucidité, c'était de dire, ils sont vraiment plus forts que moi, donc
faut que je m'y accroche,
faut que je les garde, effectivement, faut que je mette mes petits ongles crochus autour d'eux et puis que je les lâche pas. Je pense que c'était, des rencontres comme ça, où on se dit, waouh la vache.
On fait souvent le parallèle de l'association du mariage, là, c'est gros coup de foudre intellectuel.
C'est un gros coup de foudre dans le sens où typiquement l'un d'entre eux, j'ai un entretien où je changeais de job, donc je me suis dit je vais pas recruter quelqu'un pour mon successeur, ça sert à rien, j'y suis quand même allé. Et je me suis dit quand même il pense vachement bien, il structure bien sa pensée.
Un des cofondateurs aujourd'hui de la boîte, c'est un mec que t'avais eu pour le recruter dans la boîte que
t'allais
quitter.
Ouais, tout à fait, c'est un mec que j'ai recruté.
Chez AXA,
tout à fait.
C'est ça, ouais.
À l'époque, comme je changeais de job, finalement je l'ai pas recruté parce que c'était pour mon successeur. Mais je me suis dit, celui-là, il faut que j'arrive à le trouver, enfin, à le recruter un jour. Parce que vraiment, j'ai réussi par la suite. Ça m'a pris un peu de temps et quelques petits coups au passage, mais voilà.
Avant même de fonder la boîte.
Avant même de fonder la boîte.
T'avais gardé le téléphone, le mail?
Oui, je l'ai recontacté. Il était parti sur un autre job entre temps, parce que, évidemment,
les talents,
mais j'ai réussi à trouver un job, on va dire, quelque part où je pouvais le récupérer par la suite. À mettre un endroit où c'était plus facile de le récupérer.
T'es un peu un joueur d'échecs.
Il faut toujours penser à plusieurs coups à l'avance, ça c'est certain. Donc il faut réussir à anticiper. Ça me paraît évident. Après, je suis pas Kasparov malheureusement.
Non, mais de toute façon, on trouvera forcément une IA meilleure que toi, donc pourquoi?
Exactement. À la fin, si c'est l'algorithme qui nous claque.
Eh bien, voilà pour la claque. Je te propose maintenant une carte blanche complète sur le sujet de ton choix. La dernière fois, on a eu Fleur Pellerin à ce micro qui nous qui nous a fait un gros sujet sur, alors c'était quoi? J'allais dire sur le métaverse, mais non, là, en l'occurrence, je crois que c'était Euphoria. Et que la claque, non, la claque, c'était Euphoria et la carte blanche sur le métaverse. Quelle sera la carte blanche de Tanguy Toufu? C'est juste après ça.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Alors, je pense que je l'ai un peu abordé. Ce que je voulais remettre encore sur la table, c'était effectivement tout le sujet catastrophe naturelle, où en fait, encore une fois, en France, on a tendance à ne pas sentir la douleur. Donc en fait, on peut regarder à la télévision parfois ce qui est en train de se passer. On voit des maisons brûlées aux États-Unis, en Californie, etc. Mais en fait, je pense que
comme c'est loin, c'est pas.
Ouais, comme c'est loin, en fait, on zappe et puis on fait pas l'effort. En fait. Il faut faire cet effort-là, il faut évidemment avoir de l'empathie pour des zones géographiques, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique latine. C'est notamment les deux continents qui sont les plus... enfin, avec l'Australie, qui est un continent avec l'Océanie, qui sont les plus vulnérables par rapport aux populations qui sont, par exemple, très exposées à la montée des eaux, mais également qui sont les plus impactées par la fréquence des anomalies. Donc il y a un effet, un combo vulnérabilité des populations... et finalement les plus sujets aux catastrophes naturelles, qui fait que c'est progressivement un enfer là-bas. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on le garde en tête, parce que ça implique ensuite des problèmes géopolitiques. Enfin, on est sur une pièce du puzzle qui implique en fait qu'on a effectivement une crise migratoire qui est extrêmement forte. On a voilà, des sujets de sécurité alimentaire qui sont prépondérants, et donc il faut réussir à
prendre... demain l'eau.
Bah, l'eau qui est évidemment un sujet de guerre potentielle dans beaucoup de zones du monde.
L'empathie, ça suffit pas à agir? Pas assez?
Ah, déjà, il faut en avoir, parce que si on est un sociopathe absolu, après on s'en fiche de ce qui va arriver par la suite, hein, c'est après moi le déluge. Mais oui, il faut...
Si on n'est pas touché soi-même, ou si c'est pas à portée de nez, d'œil, de vue...
Je pense que la douleur est nécessaire pour l'action. C'est quand même... Enfin, faut vraiment être très fort pour réussir à bouger sans avoir vraiment la douleur qui nécessite une action. S'autodiscipliner sans punition, voilà...
Et là, on parle d'une douleur... qui, lorsqu'elle sera réellement visée partout, sera un peu trop tard.
Clairement, on sait que ça se joue, ça se jouait il y a 30 ans, ça se joue maintenant, on peut pas dire que ça se jouera pas dans 30 ans. Ça se joue tout le temps. Donc il faut qu'on agisse effectivement de manière constante, de manière radicale, et le plus vite possible. Donc je suis quand même assez satisfait, entre guillemets, de ce qui s'est passé depuis 5-10 ans. On voit qu'il y a une amélioration extrêmement forte de la compréhension de ce qui se passait dans le monde par les dirigeants. Certaines actions ont été mises en œuvre. On peut dire que le plan européen est pas assez ambitieux, on peut dire que le plan américain est pas assez ambitieux.
Mais ils sont là, c'est ce que tu veux dire.
Il y a eu des centaines de milliards qui ont été injectés, des directions qui ont été prises, une terminologie sur les investissements qui a été définie. Alors, certains disent que la taxonomie est pas parfaite, mais en tout cas, on peut pas dire qu'on n'a rien fait. Depuis quelques années. Et on voit que les COP, bon, encore une fois, peuvent conduire à des déceptions, mais globalement, elles ont eu le mérite de faire avancer certaines choses, même si c'est pas assez ambitieux. La direction est quand même assez impressionnante. On m'aurait dit ça il y a 5-6 ans, j'aurais dit qu'on serait au point mort. On l'est pas. Donc c'est déjà une bonne nouvelle.
J'ai vu passer ce matin une super vidéo de Greenpeace qui se projetait, je crois, à 30 ans, et il y a pas mal de dirigeants, d'influenceurs, d'animateurs médias qui étaient projetés à 30 ans après, qui revenaient faire le commentaire. C'est bien fait. Donc, carte blanche pour dire, bougez-vous avant d'être dans la douleur.
On doit tous, agir. Et encore une fois, il faut le faire de manière scientifique, mais évidemment, on n'a pas le choix. Et encore une fois, je pense que les générations futures vont nous regarder avec un regard qui sera extrêmement dur. Je pense qu'on sera vraiment la génération, comme on l'évoquait à la pause, qui est une génération qui savait et qui n'a rien fait. Je pense qu'on sera pas la génération qui n'a rien fait, mais la génération qui, par rapport à nos niveaux de compréhension du sujet, a pas fait grand-chose. Et voilà, c'est la trace qu'on laissera. On a beaucoup de rancœur parfois pour la génération des Golden Years. Je pense que on oublie souvent que la génération future aura une dent qui sera encore plus dure sur nous-mêmes. Je pense pas qu'on nous regarde positivement dans 30 ou 40 ans. je pense que ce sera avec du vitriol. C'est un peu ma conviction. Alors peut-être qu'on aura réussi à régler pas mal de sujets d'ici là, mais je pense qu'on sera mal vu par la génération future.
Eh ben, rendez-vous dans 30-40 ans.
Hein. Même dans 20
ans. Là, t'auras peut-être encore un peu plus de cheveux gris ou plus de cheveux. Et ce serait peut-être pas que parce que t'étais entrepreneur.
Exactement.
Écoute, passons à un autre sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, celui de plus de femmes dans l'entrepreneuriat. On en a parlé, encore trop peu de femmes aussi au Next 40, notamment sur cette promo-là, mais en même temps c'est fait sur les levées de fonds, donc ça questionne plutôt le fait qu'elles y accèdent plus facilement, plus rapidement. Mais c'est aussi pour ça qu'on tenait à avoir cette rubrique Sista. Et du coup, tu vas nous annoncer sur ces quelques notes. Qui est ta Sista ?
Alors ma Sista, c'est Mariemba, qui est donc une spécialiste...
Dans la micro-assurance dont tu as parlé tout à l'heure.
Exactement, dans la micro-assurance en Afrique. Elle vient d'une famille d'agriculteurs, donc elle a été extrêmement sensibilisée. Et elle connaît aussi la complexité de mise en œuvre. Parce qu'on peut avoir une vision, en fait, extrêmement théorique du sujet. Je pense qu'on a la chance, en France, d'avoir un prix de Nobel d'économie, Esther Duflo, qui avait une analyse assez fine, en fait, de l'économie des populations pauvres. Et qui a justement craqué aussi, c'est un sujet sur la micro-assurance, hein, avec parfois des mécanismes qui n'étaient pas adaptés, pour aider à lutter contre la pauvreté. Et donc Mariem, c'est quelqu'un qui a un parcours d'ingénieur, parce qu'elle a été diplômée aussi de Centrale Paris, mais qui a un vécu évidemment familial qui lui permet de comprendre comment faire avancer les sujets en local, qui a pu travailler dans des pays comme le Nigeria, qui évidemment en termes de population est un des pays qui va devenir un des pays les plus peuplés du monde, avec un sujet alimentaire qui est majeur. La Côte d'Ivoire aussi, qui est en Afrique de l'Ouest, un pays dominant. Et puis le Sénégal, qui est son pays en fait natal. Et quelqu'un qui à mon sens, mérite plus de visibilité. Parce qu'on voit souvent les gens qui sont devant la télévision, qui parlent de comment ils ont changé le monde. Mais c'est pas ceux-là qui ont changé le monde. C'est ceux qui étaient en local à expliquer aux agriculteurs comment ça fonctionne, qu'on utilise des images satellitaires avec des gens qui potentiellement ne savent pas lire ni écrire. Donc leur expliquer qu'en fait on sait mieux déterminer les rendements grâce à du satellite que grâce à quelqu'un qui va être dans leur champ. Bon, ces gens-là méritent beaucoup plus de visibilité que les gens qui sont devant certains écrans.
Mariemba. Eh ben, ça tombe bien. Déjà, elle est citée dans cet épisode, mais surtout, on va lui dédier un épisode au micro de Solène, mon associé. Si elle est revenue de son congé maternité, sinon c'est moi qui aurai le plaisir d'échanger avec elle. Donc, tu nous mettras en relation.
Tout à fait.
Et on lui posera une question en ton nom que je te propose de lui poser directement. Tu peux t'adresser à elle. On fera comme pour les questions surprises auxquelles tu as eu droit tout à l'heure.
Alors, je pense que la question que j'aimerais lui poser, c'est il y a, je pense, une vraie envie des investisseurs de miser sur des fondatrices femmes, sur des sujets aussi de développement. Donc, si tu avais, par exemple, 4 millions en seed d'un investisseur, comment tu l'utiliserais ? Parce que je pense que tu auras... l'intelligence d'utiliser de manière beaucoup plus efficace que beaucoup de personnes. Donc j'espère que tu auras quelqu'un qui te donnera ces 4 millions-là.
Eh ben, cette question lui sera posée.
J'ai dit 4, j'aurais pu dire 10, hein, mais...
T'as dit 8.
Ou 8, si tu veux.
Écoute, on comblera la différence. C'est comme tout à l'heure, comme pour ton rôle de président. Ici, on a à peu près tous les droits. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de découvrir tout l'univers de votre boîte et puis ton univers plus personnel. C'était un bonheur d'échanger avec toi pendant ces 2 heures. J'espère que, de toute façon, si vous êtes encore là, c'est qu'a priori, vous avez apprécié aussi. Merci Tanguy.
Merci Thomas.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.